Merci et merci pour votre invitation. 2015 est effectivement l'année internationale de la lumière et c'est aussi l'année du 20e anniversaire de la découverte de la première planète en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil, 51 Pégase B, dont je reparlerai tout à l'heure. Ça a marqué le début d'une toute nouvelle discipline, l'exoplanétologie, c'est-à-dire l'étude des planètes en orbite autour d'une étoile autre que le Soleil. Lumière et exoplanètes sont intimement liées, car les exoplanètes, comme la plupart des astres dans le ciel, ne sont accessibles que par l'analyse de la lumière. Alors, il peut s'agir de l'analyse de leur propre lumière, mais, et ça c'est une spécificité des exoplanètes, il peut aussi s'agir de l'analyse de la lumière des étoiles autour desquelles elles tournent, ou bien carrément d'autres objets du ciel. Nous allons faire ensemble le tour des principales méthodes de détection des exoplanètes. Alors, ce sera un petit peu technique, mais il me semblait que pour marquer l'année internationale de la lumière, c'était important de vous montrer comment on utilise le signal lumineux, les ondes électromagnétiques dont on a entendu parler depuis ce matin, pour chercher et étudier les exoplanètes, soit par méthode indirecte, soit par méthode directe. On fera aussi le bilan des connaissances à ce jour. Et évidemment, on verra tout ce qui nous reste à découvrir dans les années à venir. Avant de commencer cet exposé, j'aimerais expliquer qu'est-ce qui nous motive, nous, les astrophysiciens, pour l'étude des exoplanètes. Nous avons en fait trois grands objectifs. Le premier est de comprendre comment, à partir des nuages de gaz et de poussière que l'on voit ici, les poussières ici font de la taille du micron, en gros, comment, à partir de ces grandes structures, on arrive à des systèmes organisés avec une étoile au centre et des planètes autour. Ce n'est pas tout à fait simple, il faut gagner beaucoup d'ordres de grandeur et il faut structurer la matière. Un autre objectif est de comprendre quelle est la fréquence de ces systèmes planétaires, s'ils existent, quelle est la variété de leur architecture, et de comprendre aussi la variété, la diversité des physiques des planètes que l'on va détecter, soit de leur intérieur, soit aussi de leur atmosphère. Le troisième objectif, qui est celui qui est le plus attirant pour le public, je crois, est la recherche des signatures de vie sur des planètes de type terrestre. Malheureusement, c'est aussi celui sur lequel on sait le moins de choses actuellement. Alors, jusqu'aux années 90, nous ne connaissions qu'un seul système planétaire avec des planètes. Il s'agit du Soleil, avec son cortège de planètes, les planètes telluriques, Mercure, Vénus, Terre, Mars, situées proches de leur étoile, et Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, les planètes géantes gazeuses, alors que celles-ci ont un sol solide. On a appris beaucoup de l'étude des planètes du système solaire par la... on a appris beaucoup sur l'origine de la formation de ces planètes je vais utiliser beaucoup le système solaire comme référence et je parlerai beaucoup donc de la Terre comme référence des planètes telluriques qui se situent à une unité astronomique, c'est-à-dire 150 millions de kilomètres du Soleil, qui fait le tour du Soleil en un an, et de Jupiter, la plus grosse géante gazeuse du système solaire, qui est 300 fois la masse de la Terre, qui tourne autour de son étoile en 12 ans et qui est située à 5 unités astronomiques. Alors, c'est très pratique d'utiliser le système solaire comme élément de référence. On va voir un petit peu aussi que ça peut être un piège pour nous, les astrophysiciens. Alors, jusqu'à très récemment, l'étude des astres dans le ciel reposait sur l'imagerie dont on a parlé, à l'œil, avec des lunettes, avec des télescopes. Il s'agissait de faire des images des objets que l'on étudiait. Ça a été le cas ainsi pour la plupart des astres que l'on a connus. Dans le cas des exoplanètes seulement, c'est beaucoup plus compliqué, comme on verra plus tard, et l'imagerie directe a été impossible jusque très récemment. Les méthodes qui ont permis de découvrir les premières exoplanètes, et à ce jour, la plupart, il faut bien le dire, des exoplanètes sont des méthodes indirectes qui ne reposent pas sur l'analyse de la lumière des planètes elles-mêmes. Alors, comment ça se passe? On part sur des lois très simples. En fait, tout repose sur les lois de Kepler. On sait tous que les planètes tournent autour, par exemple, la Terre tourne autour du Soleil. Ce que l'on sait un petit peu moins, c'est que le Soleil, dû à cause de la présence de la Terre et des autres planètes, va aussi tourner. Si on veut être plus précis, les planètes tournent autour du centre de gravité du système étoile-planète. Et comme elles sont les plus légères, elles sont le plus loin, elles font le plus grand tour. Les étoiles qui, elles, sont plus massives vont faire un tour plus petit, mais vont néanmoins bouger. Alors, de manière intuitive, donc le mouvement des planètes a été identifié et étudié par Kepler au début du XVIIe siècle, a été formalisé par les lois de Newton à la fin du XVIIe siècle. Et en fait, on va s'appliquer énormément là-dessus. Donc, la première méthode de détection indirecte est assez intuitive, en fait. On peut se dire, si l'étoile se déplace, comme on la voit se déplacer là dans le ciel, il suffit de repérer sa position dans le ciel et on va voir si elle bouge. Ça peut vouloir dire qu'il y a une planète et c'est ainsi qu'on pourrait détecter de manière indirecte des exoplanètes. En fait, cette idée a été... les astronomes du 19e siècle, déjà ont eu cette idée et ont cherché à détecter des planètes, des exoplanètes par astrométrie, mais faute de précision, ils n'y sont pas arrivés. Et de fait, jusqu'à maintenant, aucune exoplanète n'a été détectée, découverte grâce à l'astrométrie. Mais les choses vont bientôt changer grâce au satellite Gaïa de l'Agence spatiale européenne qui a été lancé en 2013. Gaïa a pour but de mesurer la position des étoiles dans tout le ciel sur pratiquement un milliard d'étoiles. Pour un certain nombre d'entre elles, 300 000, il sera capable de déterminer avec une précision telle, avec une extrême précision, la position des étoiles et la variation de ces positions des étoiles pendant 5 ans. Et à partir de là, on estime que Gaïa va être capable de découvrir par astrométrie plusieurs milliers de planètes géantes dans les années qui viennent. La méthode, en fait, qui a permis de détecter les premières exoplanètes et une grande partie des exoplanètes à ce jour, est ce qu'on appelle la méthode des vitesses radiales. Elle aussi est basée sur les lois de la gravitation. On a repris le système étoile-planète avec notre étoile qui bouge beaucoup. Et là, on est un observateur qui va regarder non pas la position de l'étoile dans le ciel, mais sa vitesse par rapport à nous. L'étoile se déplaçant par rapport à nous, sa vitesse va changer. Et en mesurant cette vitesse projetée sur la ligne de visée, qu'on appelle la vitesse radiale, on va être capable de déterminer si cette vitesse a un mouvement bien périodique. On va être capable de montrer qu'il y a vraisemblablement une planète autour de l'étoile. Alors, la période du mouvement va nous donner la période de rotation de la planète ou de celle de l'étoile, c'est la même chose. Et par application de la troisième loi de Kepler, on va dériver de la distance de l'étoile de la planète à l'étoile. Et l'amplitude des vitesses radiales, des variations de vitesse radiale, va nous donner une information sur la masse, en fait, sa masse minimum. C'est cette amplitude-là qui va nous intéresser. Comment est-ce qu'on mesure les vitesses ? Donc là, c'est là où vous voyez qu'on joue beaucoup, on étudie beaucoup le signal lumineux. En fait, on utilise des spectrographes qui sont placés au foyer des télescopes. Ces spectrographes agissent comme de très puissants prismes qui vont disperser la lumière de l'étoile. De nouveau, on ne parle que de l'étoile, là. En dispersant la lumière de l'étoile, on va voir apparaître en absorption des raies que l'on voit ici en noir, qui sont caractéristiques des éléments chimiques présents dans la photosphère de l'étoile. Si l'étoile ne bouge pas, ces raies sont fixes. Si l'étoile bouge, par application de l'effet Doppler, les raies vont également bouger au rythme de l'étoile et la variation de vitesse des raies est directement proportionnelle à la vitesse radiale de l'étoile par application de l'effet Doppler, delta lambda sur lambda égale V sur C. Donc c'est ainsi qu'on remonte à la vitesse de l'étoile. Et c'est ainsi donc que la première planète, exoplanète, a été détectée autour d'une étoile autre que semblable au Soleil, à l'Observatoire de Haute-Provence en 1995, par deux astronomes suisses, Michel Mayor et Didier Queloz. Donc 51 Pégase B, c'est son nom. Petit B, quand vous verrez des petits B, ça veut dire que c'est le nom de la planète, alors que 51 Pégase, c'est le nom de l'étoile. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce qui était intéressant avec cette découverte, c'était bien sûr qu'enfin on montrait qu'il y avait des planètes autour des étoiles comme le Soleil. Mais ce qui était aussi le plus intéressant, c'était que la période de cette planète était de 4 jours seulement, alors qu'il s'agit là d'une planète à peu près de la masse de Jupiter. Ça veut dire que la planète était 100 fois plus près que Jupiter ne l'était du Soleil. Et c'est là où je parlais tout à l'heure d'un piège possible, c'est que les astronomes, jusqu'en 1995, ne cherchaient que des analogues aux planètes du système solaire. Ils cherchaient des Jupiters. Donc, ils pensaient qu'il fallait chercher des planètes qui orbitent en 12 ans ou même plus loin pour les planètes les plus lointaines. Et jamais ils n'avaient pensé qu'on pouvait détecter une planète avec 4 jours de période. Donc, ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et c'est aussi un enseignement pour nous de voir que la nature est très diverse et qu'il faut, on a toujours du mal à anticiper cette diversité. 51 Pégase B a été le début d'une très longue série de découvertes. Et je reviendrai dessus plus tard. Une autre méthode qui est aussi très intuitive, qui s'appelle la méthode des transits photométriques. Si une étoile, si une planète vient au cours de sa rotation à passer exactement entre l'étoile et l'observateur, la planète va effectuer une petite éclipse d'étoile que l'on va pouvoir mesurer si l'on suit la lumière que nous envoie l'étoile au cours du temps. La profondeur de l'éclipse est proportionnelle au rapport des surfaces, planète, étoile, et de nouveau la période du phénomène va nous donner de nouveau une information sur la distance de la planète à l'étoile. Alors, ce qui est évidemment toujours, on travaille en astronomie, on travaille sur les exoplanètes, donc c'est toujours difficile. La variation d'éclat, par exemple, si je prends un Jupiter autour du Soleil, n'est que de 1% de l'éclat du Soleil, et elle se produit tous les 12 ans, et elle dure quelques heures seulement. La variation de la Terre, c'est de 0,01%, elle a lieu tous les ans, mais elle dure quelques minutes. Donc, vous voyez bien qu'il va falloir regarder beaucoup, beaucoup d'étoiles pour avoir des chances d'en détecter. Il faut en plus que le système soit orienté convenablement, on a à peu près une chance sur 1 million de détecter ça, mais c'est faisable. Et la première détection des transits photométriques d'une planète ont été faites autour de l'étoile HD 209-458. C'était une étoile dont on avait déjà montré qu'il y avait une planète. Planète toujours à courte période, 3 jours de période autour de son étoile, semblable à Jupiter. Le HD 209-458b a été aussi le début d'une très longue série de planètes détectées, en particulier, il faut bien le dire, depuis l'espace, avec le satellite Corot du CNES lancé en 2006 et le satellite de la NASA Kepler qui tourne encore, qui a été lancé en 2009. Dans les cas favorables, où l'on peut à la fois mesurer les vitesses radiales des étoiles, détecter les planètes par la méthode des vitesses radiales et par la méthode des transits, on peut arriver à remonter à une information qui est très intéressante, c'est la densité. Les vitesses radiales pour une planète dans les orbites qui transitent, on peut déterminer la masse. Avec le transit, on peut déterminer le rayon, donc on va en déduire la densité de la planète. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant et de très intéressant. Une faible densité va nous indiquer que la planète est essentiellement gazeuse, hein, comme les planètes du système solaire, tandis qu'une densité assez forte va nous indiquer qu'il y a de la matière solide, vraisemblablement lourde, dans ces planètes. Alors ça, c'est quand même une exploitation absolument, je trouve, étonnante de la lumière. On a des planètes qui se trouvent à des dizaines d'années-lumière ou des centaines d'années-lumière sur lesquelles on n'ira jamais, il ne faut pas se leurrer. Mais à partir de l'analyse de la lumière des étoiles, finalement, on va arriver à déterminer qu'est-ce qu'il y a, quel est l'intérieur de ces planètes. Alors maintenant, les détections dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant sont des détections indirectes. Et en fait, elles ont une certaine limitation, c'est que toutes ces détections sont basées sur la rotation, on appelle ça la révolution des planètes autour des étoiles, donc elles prennent du temps. Pour une planète, je reviens toujours à Jupiter, il faut 5 ans. Pour Saturne, il faut 12 ans, pardon, pour qu'elle fasse un tour de son Soleil. Pour Saturne, qui est à peu près à 8 ou 10 unités, 9 unités astronomiques, il va falloir 20 ans. Au-delà, pour les planètes encore plus lointaines, il va falloir 30 ans, 40 ans. Donc, ça devient difficile de détecter ce genre de planète avec ces techniques pour un seul homme, je dirais. Donc, un gros avantage de l'imagerie directe, c'est qu'elle nous permet très vite, très rapidement, d'identifier des planètes autour des étoiles. En gros, il nous faut un an, typiquement, pour y arriver. La difficulté, en fait, est double. Si l'on prend un système étoile-planète, vu du ciel, vu de loin, qui est loin, vu de la Terre, il va apparaître très, très petit angulairement dans le ciel. Par ailleurs, le contraste de lumière entre les planètes et les étoiles sont très, très faibles. Il varie entre quelques dizaines de millions et 1 milliard le contraste pour le cas de la Terre, entre la Terre et le Soleil. Donc, on a des contrastes énormes. On a une autre difficulté, c'est le brouillage des images que l'on obtient par le passage des rayons lumineux à travers l'atmosphère terrestre. Là, j'ai gardé le même système solaire simplifié à l'échelle et j'ai mis par-dessus l'image d'une étoile qu'on observe avec les télescopes les plus modernes. Là, il s'agit d'un des télescopes de 8 mètres de l'Observatoire européen austral au Chili. Donc, vous voyez la tâche d'une étoile seule. La taille qu'elle va occuper, elle est très, très étalée à cause des perturbations atmosphériques et elle va s'étaler bien au-delà de la position des planètes qu'on cherche à voir. Donc, on a un double problème à résoudre, c'est le problème du contraste et le problème de la turbulence atmosphérique. Alors, pour résoudre le problème de la turbulence atmosphérique, une solution, c'est d'aller dans l'espace, mais ça coûte très cher et, en général, on a des télescopes un peu petits. Donc, on va trouver des méthodes. Donc, une fois qu'on aura corrigé des perturbations atmosphériques, qu'on aura concentré l'énergie de la lumière des étoiles dans le plus possible, c'est-à-dire à la limite de diffraction des télescopes, il faudra encore une autre étape qui va être de bloquer la lumière stellaire et de corriger les aberrations qui se trouvent partout sur le chemin optique depuis le télescope pour arriver à voir enfin une planète. Alors, pendant de nombreuses années, ça n'a pas été possible. Et en fait, on a commencé à y réfléchir grâce aux premiers systèmes d'optique adaptative qui ont été mis au point pour l'astronomie sous la pulsion du professeur Pierre Léna. Ces systèmes d'optique adaptative sont des systèmes qui sont placés derrière la surface du télescope, bien sûr. Ils reçoivent un front d'onde qui est perturbé au passage de l'atmosphère. Il faut voir, chaque rayon à la traversée de l'atmosphère va être dévié d'une certaine quantité, et ce qui fait qu'au bout, que ça perturbe le front d'onde et on a des images très, très élargies. Les perturbations du front d'onde vont être analysées par l'optique adaptative et un calculateur temps réel et qui tourne assez vite, hein, c'est à peu près 1 kHz, donc à peu près 1000 fois par seconde, au rythme des variations de l'atmosphère, va envoyer des commandes à un miroir déformable que l'on voit ici, on voit ici sa forme, un exemple de forme, qui va redresser le front d'onde pour donner une image propre. Alors, un exemple de ça, si j'y arrive. Voilà, on va y aller comme ça. Donc là, vous allez voir, voilà, vous voyez le front d'onde bouger ici, tel qu'il arrive, très perturbé, et l'image que ça donne sur un détecteur. Là, vous voyez les déformations qui sont envoyées au miroir déformable pour corriger. Là, vous avez le front d'onde corrigé, et vous voyez qu'ici, vous avez une image beaucoup plus fine, même s'il reste du halo autour de l'étoile. Une autre illustration, là, que je vais vous montrer, que j'aime bien, c'est un système qu'on a observé avec le système d'optique adaptative NACO qu'on avait installé au Chili il y a une dizaine d'années. Vous voyez ici une tache de lumière, une tache assez floue quand on ne met pas l'optique adaptative en marche. Et une fois qu'on la met, hop, vous voyez, vous avez ici, non pas vous n'avez plus une image floue, mais vous avez une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental pour arriver à observer directement, pour avoir une chance d'observer directement des planètes. J'en profite d'ailleurs pour dire que l'optique adaptative, comme le disait Serge Haroche tout à l'heure, ça fait partie des systèmes qui ont été pensés à des buts de recherche fondamentale, comme on voit ici, l'astronomie est une recherche assez fondamentale. Et maintenant, ce sont des systèmes qui sont utilisés dans plein d'autres cas, en particulier pour les études médicales, pour étudier les yeux, pour faire des opérations, etc. Et de nouveau, ce n'était pas du tout anticipé au moment où les chercheurs ont commencé à travailler sur ces systèmes. Alors, un exemple de l'amélioration des systèmes qu'on a eu depuis les années 90. Le premier système avait été installé dans les années 90 sur un télescope de 4 mètres au Chili. Avec ce système, il n'était pas possible de détecter des planètes, de découvrir des planètes. Mais un collègue allemand, ici, a détecté ce petit point ici, qui se trouve être une naine brune, c'est-à-dire un corps de masse intermédiaire entre la masse entre les planètes géantes et les étoiles, donc entre 13 et 70 fois la masse de Jupiter. Alors là, il faut vraiment que vous me croyez pour penser qu'il y a vraiment quelque chose ici. Mais elle existe bien, cette naine brune. Et voilà, voilà ce qu'on a vu quand on l'a regardée avec notre instrument NACO au Chili 10 ans après, donc en 2005. Vous voyez ici, la naine brune se distingue très très bien du halo de l'étoile, alors que là, elle était complètement noyée. Nous avons installé l'an dernier un système d'optique adaptative extrême au Chili sur toujours le télescope de 8 mètres comme pour l'instrument NACO. Et vous voyez ici le même système observé qu'on a observé il y a quelques semaines. Vous voyez ici, on ne voit même plus le bruit, on ne voit que la naine brune. Et là, tout ça sont des artefacts de réduction qu'on peut faire disparaître. On ne voit vraiment plus que ça, simplement parce qu'on a des systèmes d'optique adaptative. Ce système-là est vraiment tout à fait extraordinaire. Un autre exemple que je ne peux pas résister de vous montrer, c'est un disque de matière protoplanétaire dans lequel on pense d'ailleurs que des planètes se sont déjà formées, qu'on étudie depuis 20 ans. Voilà le disque tel qu'on le voyait avec le premier système d'optique adaptative et le premier coronographe qu'on avait installé justement sur ce système d'optique adaptative pour pouvoir voir des choses autour. Vous voyez tel qu'on on l'observait avec NACO sur le VLT il y a quelques années, dans les années 2000, et voilà comment il sort maintenant avec notre nouvel instrument sphère sur le VLT. Et rien que la forme de ces anneaux-là nous disent qu'il y a des planètes dans ces systèmes. Alors, avec NACO, nous avons pu effectivement détecter, faire l'image des premières planètes, premiers corps de masse planétaire autour d'étoiles autres que le Soleil. Là, nous en avons un exemple autour d'une étoile qui est cachée là par un coronographe. Nous avons ici une planète qui fait à peu près 13 fois, donc elle est la masse de Jupiter, donc à la limite du domaine des naines brunes, mais qui se situe à 250 unités astronomiques de son étoile. Alors que, de nouveau, Jupiter, si on compare à Jupiter, il est à 5 unités astronomiques. Donc, c'était une grande surprise de voir une planète, un corps de masse planétaire aussi loin. Ce corps ici, là aussi, est très intéressant. C'est un corps qui fait à peu près 5 fois la masse de Jupiter et qui est, lui, en orbite autour, non pas d'une étoile, mais d'une naine brune. Donc, là, à partir de là, on s'est dit qu'effectivement, on pouvait commencer à explorer, à imager directement des planètes et à les étudier. Je vais vous montrer un autre exemple sur lequel on a travaillé beaucoup, qui est la détection d'une exoplanète autour de l'étoile Beta Pictoris. Voilà l'exoplanète telle qu'elle se situait en 2003, telle qu'on l'a observée en 2009. Et en fait, ce système est très intéressant parce qu'il est aussi l'étoile abrite aussi un disque. Et par l'étude de ce disque, on avait prévu, il y a une dizaine d'années, qu'il y avait une exoplanète qui imprimait des torsions à ce disque, en fait. Et maintenant, alors j'espère que je vais y arriver, là, on a beaucoup étudié cette planète depuis qu'on l'a détectée, on la suit, et vous allez la voir. On va faire un zoom à l'intérieur du disque, et vous allez voir très rapidement toutes les images qu'on a faites de cette exoplanète depuis 2003, vous allez la voir s'éloigner de son étoile et après vous allez la voir revenir de son étoile. L'image n'est pas toujours la même parce qu'on est encore limité par les conditions atmosphériques, mais vous allez voir à quel point, voilà, sur les deux derniers, ça s'est amélioré avec notre système sphère. Et là, vous avez vu, c'est le seul cas qu'on connaisse actuellement, la seule planète extrasolaire en rotation autour de son étoile. Elle a fait plus d'un demi-tour depuis ce temps-là. Elle est à peu près à la même distance de son étoile que Saturne autour du Soleil. Alors maintenant, je vais passer à une autre méthode, très rapidement, pour faire écho à ce que disait Serge Haroche tout à l'heure. Il y a une méthode très, très indirecte, cette fois-ci, qui est basée sur l'étude pour détecter les planètes, qui est basée non pas sur l'étude de la planète elle-même, non pas sur l'étude de l'étoile autour de laquelle la planète tourne, mais sur une étoile très lointaine. On s'appuie là-dessus sur les lois de la gravitation d'Einstein qu'on va exploiter comme ça. J'imagine que j'ai une étoile qui est très très lointaine et que j'ai une autre étoile qui passe devant. À cause des lois de la gravitation, si l'on suit la lumière envoyée par l'étoile lointaine, on va avoir, à cause de l'objet déflecteur, on va avoir une amplification de la lumière au cours du passage de l'étoile en question. Si l'étoile, donc ça c'est un phénomène qui est bien connu depuis quelques années, et si l'étoile est en plus entourée d'une planète, on va avoir un pic secondaire causé par la planète qui va être évidemment beaucoup plus court et beaucoup plus faible. Dans la réalité, le voilà, une des premières planètes détectées comme ça par cette méthode en 2005. Elle a permis de détecter des planètes de masse très très petite et à des distances assez lointaines de l'étoile. Je ne reparlerai pas de cette méthode parce qu'en fait, je voulais juste en parler dans le cadre de l'année de la lumière, mais en fait, une fois qu'on a détecté ces planètes par cet effet de l'antigravitationnel, on les a perdues. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus jamais, on ne les reverra pas, on ne pourra pas les réobserver parce que l'étoile est passée une fois, elle a eu une chance de passer devant une étoile. La chance est très très faible, donc on ne les reverra pas, donc on ne peut pas faire d'études de caractérisation. Donc j'en arrive maintenant à qu'est-ce qu'on sait au bout de 20 ans d'études et de recherches des systèmes planétaires. Donc vous avez ici toutes les planètes qui ont été détectées. Alors ce n'est pas 2000, j'ai regardé il y a deux jours, c'était 1969 ou quelque chose comme ça. Planètes extrasolaires détectées autour des étoiles autres que le Soleil. Vous avez ici dans un diagramme distance en unité astronomique, masse en masse de Jupiter, toutes les planètes détectées. Ce qu'il est intéressant de voir d'abord, c'est qu'il y en a beaucoup. Et en fait, on pense que c'est vraiment un phénomène maintenant très, très commun. Plusieurs familles de planètes ont été détectées. Les Jupiters éventuellement massifs que l'on voit ici, ce qu'on appelle les super-terres ou les sous-Neptunes, qui sont des planètes de quelquefois la masse de la Terre, qui sont en fait des planètes dont il n'y a pas d'équivalent dans le système solaire, encore une surprise. Là, vous voyez, j'ai mis Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Donc, vous voyez, c'est une famille de planètes qui n'a pas d'équivalent là, dans le système solaire. On pense maintenant qu'entre 5 et 10% des étoiles de type solaire abritent au moins une planète géante et que 50, peut-être 100% des étoiles de type solaire abritent au moins une planète tellurique. On a détecté aussi, ce qui est très intéressant, 450 systèmes multiples dans des configurations très très variées, incroyablement variées et évidemment très différentes de celles du système solaire. Je fais remarquer là d'ailleurs que toutes ces planètes là du système solaire sont dans un diagramme où on n'a rien détecté. C'est parce qu'en fait, on n'est pas encore capable de détecter. Ça veut dire qu'on n'est pas encore capable de détecter un analogue du système solaire. Donc souvent, on nous pose la question de savoir si le système solaire est quelque chose d'unique ou pas. On n'en sait rien. Alors maintenant, je voudrais vous parler des choses les plus intéressantes qu'on a trouvées sur les exoplanètes. Une des choses les plus intéressantes, c'est aussi la variété de distance, de la gamme de distance sur laquelle on voit des planètes géantes. On voit des Jupiters chauds comme 51 Pégase à 0,05 unité astronomique de l'étoile. Quand on fait de l'imagerie bêta-pique, on est à 9, c'est la plus près. Mais après, on va vite à 40, 250, ici 650 unités astronomiques de leur étoile. Pour expliquer une telle diversité, il faut se demander finalement comment ces planètes-là ont pu se retrouver là et se sont formées. Alors, dans le cas du système solaire, je m'excuse, je vais aller très très vite, on pense que les planètes se forment donc à partir des nuages de gaz en contraction qui vont donner naissance à un disque protoplanétaire et avec un embryon d'étoile au centre. Le disque protoplanétaire est en rotation. Il est au début constitué de grains de très petite taille, de l'ordre du micron, qui vont s'agglutiner pour passer à un stade que l'on appelle le stade des planétésimaux, qui est un stade important pour nous. C'est les briques de base de la formation des planètes. Donc à peu près le kilomètre, c'est en gros des grosses comètes avec plus ou moins d'eau. Et un stade important après va être de former des noyaux de planètes géantes qui font à peu près plusieurs fois la masse de la Terre. Et après, ces noyaux de planètes géantes vont être suffisamment massifs pour accréter du gaz jusqu'à 300 fois leur masse, parfois plus, pour former les planètes géantes. Mais ces scénarios-là ne fonctionnent que lorsqu'on est très près de l'étoile, qu'on est à quelques unités astronomiques, pardon, de l'étoile. Pour les planètes qu'on a vues, pour la plupart des planètes qu'on a détectées en imagerie, ce scénario ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas le temps de former les planétésimaux dont je parlais, a priori. Donc il y a d'autres théories qui sont proposées, en particulier des instabilités gravitationnelles directement dans les disques qui vont former déjà des noyaux de gaz qui vont éventuellement accréter de la poussière, mais le phénomène de formation est complètement différent. Une dernière alternative est que certaines planètes, finalement, pourraient se former à la manière des étoiles. Vous savez que la plupart des étoiles se forment en couple, en binaire ou en système multiple. On pourrait très bien avoir dans les queues de binarité, justement, des petites planètes, des planètes. Les théories dont j'ai parlé là n'expliquent cependant pas les Jupiters chauds dont j'ai parlé, qui sont très très proches. On pense qu'on ne peut pas former des Jupiters chauds très près de leur étoile simplement parce qu'il n'y a pas assez de masse. Donc, en fait, on pense que ces Jupiters chauds se forment assez loin, au-delà de ce qu'on appelle la ligne des glaces, et que par interaction visqueuse avec le disque de gaz dans lequel ils se trouvent, ils vont lentement dériver vers l'étoile. On appelle ça la migration, et c'est ça qui va expliquer les fameux Jupiters chauds. Une autre chose très amusante, en fait, qui a été découverte, c'est que, contrairement aux planètes du système solaire qui tournent toutes dans le plan de l'écliptique, c'est-à-dire le plan qui est perpendiculaire à l'axe de rotation de l'étoile, vous les voyez là, les vitesses radiales ont permis de montrer qu'il y avait des planètes qui tournaient en dehors du plan de l'écliptique de l'étoile, donc qui étaient inclinées par rapport à ce plan. Pour expliquer ça, les seules idées qui ont été proposées jusqu'à maintenant, c'était des interactions gravitationnelles avec des autres corps qu'on ne voit pas nécessairement, qui auraient poussé, en fait, qui auraient éjecté les planètes sur des orbites inclinées. Donc ça, c'est quand même très intéressant, et je ferai remarquer que dans le cas du système solaire, tout ça, ça nous montre que la formation des planètes est quelque chose qui n'est pas simple. Ça se passe dans... on avait tendance à croire, on pensait en fait jusqu'à maintenant que les planètes se formaient à un endroit et elles y restaient pendant des milliards d'années. Ce n'est pas du tout le cas. On a maintenant une vision beaucoup plus dynamique, voire chaotique, de la formation des systèmes planétaires. Il y a beaucoup de travaux sur la dynamique des systèmes qui se font maintenant. Et il y a un rapport très probable avec ce qui s'est passé dans le cas du système solaire. Les planètes du système solaire, on le sait maintenant, ne se sont pas formées à l'endroit où on les voit aujourd'hui. Et il y a eu des épisodes très, très violents, en particulier ce qu'on appelle le grand bombardement tardif, à peu près 700 millions d'années après la formation des planètes, qui a envoyé des cailloux un petit peu partout dans l'espace et qui a aussi fait bouger la position des planètes sur leur orbite. Tout dernier résultat que j'aimerais mentionner sur les planètes, c'est vraiment le tout début, comme j'en ai parlé tout à l'heure, de notre capacité à essayer de voir, au moins pour certains objets, il y en a très très peu, de quoi ils sont constitués. Par exemple, cet objet-là de densité 2 grammes par centimètre cube, donc moins que la Terre, hein, qui fait à peu près 5 grammes par centimètre cube. Cet objet-là est constitué d'un noyau de fer lourd, d'un manteau de silicate, de l'eau et d'une atmosphère, tandis que celui-là qui fait plus de 6 grammes par centimètre cube est constitué essentiellement de noyaux de fer toujours, de silicate et, principalement, donc ils vont amener de la densité à ces objets. Maintenant, je vais dans le mauvais sens. Un dernier élément, c'est l'atmosphère elle-même des planètes. En fait, on a pu observer les premières atmosphères en spectroscopie, hein, les premières atmosphères à la fois des Jupiters chauds et des géantes lointaines. Et quelques molécules ont été trouvées, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, de l'eau, du méthane, dans le cas des planètes lointaines. Mais ce qu'on a surtout vu, en fait, c'était de nouveau ce qu'on n'attendait pas. C'était que, alors que les modèles nous prédisaient des belles structures liées aux éléments présents dans l'atmosphère, là des alcalins en particulier, le spectre qu'on obtient est plat. Et ça, c'est dû au fait que ces atmosphères des planètes des Jupiters chauds, qui sont effectivement chauds, hein, leur atmosphère fait à peu près entre 1500 et 2000 Kelvin, sont dominées par des nuages et des brumes qui vont cacher tout le reste, en fait. Pour les planètes lointaines, on a aussi des nuages, mais ce sont cette fois-ci des condensats de poussière que l'on commence à voir bouger autour de l'étoile. Et ce qui est très intéressant de regarder, c'est qu'on commence maintenant à vouloir utiliser les outils de modèles de circulation qui sont utilisés pour étudier le climat de la Terre, par exemple, les modèles globaux de climat terrestre, pour ces objets qui sont très, très, très loin de nous. Alors voilà, j'en arrive à mes conclusions. Un petit bilan, c'est difficile d'avoir du recul parce que c'est une science vraiment très neuve et les idées, les interprétations changent encore, évoluent encore beaucoup. Les exoplanètes, ce qu'il faut retenir, c'est que les exoplanètes existent bien, elles ne sont pas rares. On leur trouve à chaque fois des propriétés inattendues. Quand je mets effet solar system, c'est peut-être qu'on cherche trop à vouloir coller à l'exemple du système solaire. L'évolution et la formation des systèmes planétaires est beaucoup plus complexe et sans doute plus variée qui avait été prévue. Il nous reste beaucoup de questions. Une des questions, c'est le système solaire est-il un cas typique ou pas ? Il nous manque beaucoup de choses sur le détail des processus de formation des planètes, sur la dynamique des systèmes, sur l'atmosphère des planètes, où on ne sait vraiment pas encore grand-chose. On ne sait pas non plus si les analogues de la Terre existent dans ce qu'on appelle la zone habitable, que l'on définit pour l'instant de manière très très grossière, comme la distance à l'étoile où l'eau est sous forme liquide et non pas solide ou gazeuse, parce qu'on pense que la vie doit se former. L'eau liquide doit intervenir dans la formation de la vie, mais vous voyez, c'est quand même très très naïf et il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Et l'autre question, peut-on trouver des signes de vie sur des planètes extrasolaires ? Là, on n'a apporté aucune réponse à la question. Je voudrais parler un petit peu du futur. La prochaine décennie, nous allons beaucoup utiliser l'instrument Sphere. Je n'ai pas pu vous montrer les images, mais qui nous donne des images absolument extraordinaires pour détecter et caractériser en spectroscopie les planètes géantes. Avec des nouveaux instruments sur le Very Large Telescope, toujours au Chili, on va pouvoir étudier des super-terres et peut-être des terres, je ne sais pas, il y a des difficultés autour de ça. Avec Gaïa, j'en ai parlé, pour la détection des planètes géantes. Le successeur du télescope spatial, James Webb Space Telescope, qui va nous permettre à partir de 2018 de faire un petit peu les mêmes choses que ça, peut-être de manière plus sensible, les images et la spectroscopie des planètes géantes et peut-être la spectroscopie aussi des super-terres, dans des domaines de longueur d'onde qui sont très, très complémentaires avec ce qu'on fait sur le VLT, d'ailleurs. Au-delà, à partir de 2025, on va pouvoir faire l'image, on espère pouvoir faire l'image des super-terres et la spectroscopie des super-terres légères ou même des terres avec le télescope, l'Extremely Large Telescope de l'Observatoire européen austral qui est en cours de construction. Ce sera un télescope gigantesque hein, de 39 mètres de diamètre qui va être installé à peu près en 2024. Un gros espoir aussi du côté du satellite plateau de l'Agence spatiale européenne qui va nous permettre, par la méthode des transits, de détecter et d'étudier des milliers de géantes, de super-terres, de terres. Et puis, on a encore d'autres propositions pour étudier les super-terres. L'horizon 2030 est probablement, je dirais, encore plus loin, 2035-2040, ce sera de chercher vraiment des signatures de vie sur d'autres planètes. Les astronomes étaient très, très optimistes il y a 5-10 ans. Maintenant, on voit qu'il nous faut plus de temps pour arriver à ça. Et il faudra le travail des théoriciens, des observateurs, des biologistes. Enfin, c'est vraiment une science qui est très, très multidisciplinaire. Donc là, je vous ai amené jusqu'en 2030 et je pense peut-être même 2040. Je vais m'arrêter ici. Merci.